Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. En Éthiopie, c'est ce soir qu'expire l'ultimatum lancé par les troupes fédérales aux forces du TPLF regroupées dans la capitale du Tigré, Mekele. Les hommes du Parti de Libération du Peuple de Tigré assurent qu'ils tiendront bon, mais pour combien de temps? D'après le gouvernement éthiopien, l'armée nationale a encerclé la ville. Son porte-parole a appelé les civils à se sauver. Après, il n'y aura, dit-il, aucune pitié. Dans le Tigré, le conflit s'envenime et déjà plus de 40 000 civils ont franchi la frontière pour se réfugier au Soudan. Il continue d'ailleurs d'y arriver par milliers chaque jour. Je vous propose de retrouver notre envoyé spécial Elliot Brachet au bord de la rivière Tekeze qui marque la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. Reportage.
Le bateau s'échoue sur la rive avec fracas. Une cinquantaine de réfugiés débarquent des sacs de farine, des poules, un vélo, tout ce qu'ils ont pu emporter dans la panique. Kyrostades et sa famille viennent de très loin.
Nous sommes d'un village à côté de Dancha. On a marché presque 3 semaines. On a dû payer des contrebandiers pour nous trouver un chemin sûr et échapper aux soldats et aux miliciens. Ils ont pris nos biens, ils ont brûlé nos maisons. On est affamés. Les soldats disaient de rebrousser chemin, mais tous ceux qui l'ont fait ont été massacrés.
Sur le bord de la rivière, un jeune homme ne quitte pas la rive éthiopienne des yeux. Burhan attend ici depuis 2 jours.
Ma femme était en train d'accoucher à l'aéroport de Houmera. Puis la ville a été bombardée. On a fui pour se cacher dans les champs. Ils veulent tuer les jeunes tigriens, donc j'ai dû laisser ma femme derrière moi avec nos 2 jumeaux. Maintenant, j'attends qu'ils arrivent.
En file indienne, ces nouveaux exilés grimpent la pente qui les emmène jusqu'au poste frontière de Hamdayet. Aujourd'hui, 1200 personnes ont traversé la rivière, venant s'ajouter aux dizaines de milliers d'autres qui s'entassent dans les camps soudanais. Eliot Brachet, Hamdayet, Radio Vatican.
De premières neiges sont tombées sur les montagnes du Karabakh dans le Caucase. C'est dans ce cadre blanc que l'armée azerbaïdjanaise a commencé à déminer les routes du district de Kalbajar qu'elle a repris ce matin. Située dans la zone tampon entre le Nagorno-Karabakh et l'Arménie, c'est la seconde des 3 rétrocessions auxquelles Erevan doit procéder en vertu de l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin à 6 semaines de combat. Nous avons beaucoup d'églises ici, nos ancêtres, nos aînés, nos amis sont enterrés ici. C'est ce qu'expliquait ce matin le cœur lourd un jeune soldat arménien à un poste frontière contraint à la retraite. Dans un communiqué, le Conseil des Églises du Moyen-Orient exprime ce soir son inquiétude pour l'avenir des lieux de culte que se propose d'ailleurs de protéger l'UNESCO, mais aussi plus largement pour la liberté religieuse, la pratique des cultes dans la région. Il estime que ses habitants ont le droit à l'autodétermination et demande un dialogue sincère entre toutes les parties engagées pour le bien de toutes les personnes de la région. Au Vatican, la traditionnelle audience générale du mercredi s'est déroulée ce matin dans la bibliothèque du Palais apostolique, toujours pour des raisons sanitaires. Le pape a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière, cette fois-ci sur le thème de la prière de l'Église naissante, un retour aux sources qui a été pour François l'occasion de rappeler ce qui définit l'Église. Les précisions tout de suite d'Adélaïde Patrignani.
La communauté primitive de Jérusalem forme encore un point de référence pour aujourd'hui. Les Actes des apôtres et d'autres récits la décrivent par 4 éléments. L'écoute de l'enseignement des apôtres, la recherche de la communion réciproque, la fraction du pain et la prière. De véritables piliers qui, aux yeux du pape, sont également des points de discernement.
Qualsiasi situazione deve essere valutata alla luce di queste 4 coordinate.
Toute situation doit être évaluée à la lumière de ces 4 coordonnées, a expliqué François. Ce qui n'entre pas dans ces coordonnées est privé d'ecclésialité, ce n'est pas ecclésial. Mais qu'est-ce que l'Église? Le souverain pontife l'a précisé, ce n'est pas un marché ni un groupe d'entrepreneurs, encore moins un club d'amis étrangers à toute synodalité. L'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint que Jésus nous a envoyé pour nous rassembler. Et le Saint-Père de confier, parfois je ressens une grande tristesse en voyant une communauté pleine de bonne volonté, mais qui se trompe de route car elle pense faire église par des rassemblements, comme s'il s'agissait d'un parti politique. L'Église n'a de sens que si elle reste solidement unie au Christ, a insisté François. Et cela demande de ses membres un solide ancrage dans la prière, spécialement l'adoration silencieuse, et dans l'accueil de l'Esprit Saint. À travers les siècles, les chrétiens font ainsi la même expérience. Dieu donne de l'amour et demande de l'amour.
En France, la reprise des messes aura donc lieu ce samedi, en même temps que la réouverture des commerces non essentiels. La conférence des évêques de France assure cependant que la limite de 30 personnes annoncée hier soir par le président Macron serait réévaluée. On aura plus de détails demain. Le choc du Brexit arrive. La pandémie est en revanche déjà là au Royaume-Uni. Le ministre de l'économie a présenté son plan budgétaire face à l'urgence. Cette année, le PIB britannique s'est contracté de 11,3%, la pire contraction depuis 300 ans dans le pays. Le chancelier de l'Échiquier a confirmé de nouvelles mesures de soutien à l'emploi, un gel des salaires dans la fonction publique à l'exception des travailleurs de santé. Londres va en outre réduire fortement son aide au développement l'an prochain, annonce qui a provoqué un flot de crises. Aux États-Unis, près de 780 000 personnes se sont inscrites au chômage la semaine dernière, soit une forte hausse. La pandémie continue, là aussi, de faire des ravages. Hier, 86 000 personnes contaminées ont été hospitalisées. En Californie, la ville de Los Angeles ferme aujourd'hui ses bars et restaurants. À la veille de la grande fête de Thanksgiving, les autorités sanitaires de Washington ont-elles appelé les Américains à ne pas voyager pour rejoindre leurs proches et partager la traditionnelle dinde. Cela ne dit rien de ce que sera l'avenir, mais c'est tout de même un petit pas. Ce mercredi, le président chinois a félicité le démocrate américain Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle aux États-Unis. Dans un télégramme, Xi Jinping estime que leurs deux pays doivent éviter tout conflit ou affrontement, s'en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant, afin, dit-il, de promouvoir la paix et le développement. Direction à présent Haïti, où le quotidien de la population ne connaît aucune embellie. Le climat sécuritaire s'envenime avec une recrudescence de la criminalité et des enlèvements contre rançon, notamment à Port-au-Prince. Les manifestations pour dénoncer cette insécurité et l'incurie des gouvernants se multiplient et le départ du président Jovenel Moïse, contesté depuis février 2019, continue d'être réclamé dans la rue. À cela s'ajoute un marasme économique grandissant et la pandémie de Covid-19. Le 13 novembre dernier, le cardinal Chibli Langlois a fait part de son inquiétude. L'évêque des Cayes s'est élevé contre la violence et contre la faiblesse de l'appareil judiciaire. Un cri d'alarme que lance également Mgr Launay Saturné. Il est l'archevêque de Cap-Haïtien et président de la conférence épiscopale haïtienne.
La situation d'Haïti est vraiment sombre et tragique. Le pays s'enfonce chaque jour davantage dans la misère. Le pays fait face à la violence aveugle des gangs et des bandits armés. Et il y a la fragilisation des institutions de l'État, la déstabilisation du leadership de l'État. Et les dirigeants sont en quête de légitimisation, mais ils sont incapables de stabiliser la situation. Cela crée une politique populiste. Ils cherchent à faire plaisir au peuple, mais jamais au profit du peuple.
Alors l'Église catholique elle-même est menacée, puisque récemment un prêtre missionnaire a été enlevé en Haïti. Comment l'Église peut-elle poursuivre sa mission malgré cette insécurité ?
Quand ce genre de situation arrive, nous sommes invités à garder notre espérance parce que il n'y a pas de mission sans souffrance, il n'y a pas de mission sans croix. Mais nous sommes obligés de lutter, de dénoncer ce genre de situation parce que si les hommes de Dieu ne sont pas épargnés, personne n'est épargné. Un pays qui n'a pas la paix ne peut pas connaître le développement. Mais le grand problème qui se pose, c'est qu'il y a la faiblesse des institutions. Nous ne pouvons pas fonctionner en paix dans ce pays.
Alors, vous parlez du fait que la paix n'est pas possible sans développement. C'est une des idées que l'on trouve dans l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Comment est-ce que vous accueillez ce message du pape François au regard de la situation dans votre pays?
L'Église en Haïti est en train de faire des efforts pour vulgariser la pensée du pape exprimée dans ce document. Donc, l'Église invite les familles à prendre leurs responsabilités pour que les familles soient déjà une communauté d'amour, une communauté fraternelle. L'Église invite les différentes communautés chrétiennes, les paroisses, les écoles, les centres de formation, les universités à faire la promotion de cette valeur pour que cette fraternité devienne une réalité dans le pays parce que nous sommes très loin de l'idéal de cette fraternité.
Interrogé par Adélaïde Patrignani, Mgr Saturnet était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Une excellente soirée à tous.